15h-16h, Olivier Delacroix sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1, nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 16h. Je suis Olivier Delacroix et je suis ravi de vous retrouver comme chaque jour pendant une heure en compagnie de ma camarade et charmante Ombline. Comment ça va?
Bonjour Olivier, ça va bien.
Pas trop de cœur serré aujourd'hui, c'est notre dernier jour.
C'est notre dernière émission.
Mais c'est une nouvelle aventure qui commence.
Oui, dans ce studio Coluche, rue François 1er.
Pendant cette heure, nous partageons, comme vous le savez, vos expériences de vie, qu'elles soient agréables ou plus difficiles, car comme chaque jour et tout le temps, Europe 1 s'intéresse à vous et à votre vécu. 1h20, c'est le temps que passent en moyenne les Français sur les réseaux sociaux. Ça par jour, sans compter l'obligation d'y aller parfois pour le travail. Depuis la naissance de Facebook, puis de Twitter, puis d'Instagram, puis de Snapchat, pour ne citer que, nous mettons en scène nos propres vies tous les jours sur le net. Le réseau social Instagram est le plus connu pour cela. On y publie des photos de vacances de soi, des photos de sa maison, de ses amis. Sauf qu'une étude britannique a révélé qu'Instagram nuirait gravement à la santé mentale des jeunes de 14 ans à 24 ans. Tout le monde semble y avoir une vie parfaite et il devient parfois très difficile de prendre du recul à cause de ce que l'on voit sur les réseaux sociaux. On en vient à avoir une image décalée de soi et des autres. Alors quel effet ont les réseaux sociaux sur le rapport à notre image? C'est notre sujet d'aujourd'hui sur Europe 1. Nous attendons vos témoignages, vos histoires. Nous savons que vous tous qui nous écoutez utilisez ces réseaux sociaux. N'hésitez pas, nous sommes là pour vous écouter.
Oui, il faut nous écrire. N'hésitez pas sur Facebook, via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1, sur Twitter, hashtag Europe 1, et puis bien sûr, vous pouvez nous appeler le standard 3921.
15h-16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons Céline au 3921. Bonjour Céline.
Bonjour Olivier.
Comment allez-vous?
Très bien, et vous-même?
Bah écoutez, moi ça va. Vous avez quel âge Céline et d'où nous appelez-vous?
Alors j'ai 31 ans et je vous appelle de Belgique.
D'accord. Alors, il y a 5 ans, vous avez créé un blog. Comment s'appelle-t-il et que peut-on y trouver?
Alors, il s'appelle tout bêtement Enkelen Blog, donc Enkelen étant mon pseudo. Et on pouvait y trouver notamment mon parcours sportif. Donc,
oui.
Il y a 6 ans, j'ai eu la chance de devenir maman de 2 petits jumeaux. Et j'ai décidé, après la naissance des petits, de me reprendre en main et de publier chaque jour mes entraînements, ce que je mangeais, etc. Simplement pour montrer un petit peu mon parcours et recevoir des conseils dans cette perte de poids et dans cette transformation sportive, entre guillemets.
En fait, cette décision, elle correspondait à quoi? Un besoin d'une motivation supplémentaire?
Oui, c'est ça, parce que j'avais déjà essayé des régimes de métro-sport, mais je n'avais pas vraiment d'objectifs concrets. Là, je me disais, ben voilà, en postant et en mettant un petit peu ton journal en public, eh ben, ça me forcerait un peu à tenir mes engagements et à aller au bout de ce projet.
Quel regard vous portiez sur toutes ces personnes qui se mettaient en scène sur Instagram ou sur tout autre compte comme Facebook ou Snapchat? Quel regard vous portiez là-dessus? Vous étiez gêné parfois par ça ou ça vous semblait totalement naturel?
Oh, pas vraiment, parce que j'étais pas vraiment sur les comptes problématiques, entre guillemets. Moi, j'admirais vraiment ces mamans, donc toute cette série de fitmen qui, à côté de leur travail, de leurs enfants, voilà, donnaient d'elles-mêmes du temps pour aller à la salle, etc. Donc c'est vraiment de l'admiration, et je voulais aussi un petit peu mon petit parcours parfait.
Ouais, vous étiez typiquement branché sur cette discipline-là, en fait, hein, sur les mamans qui avaient pris un peu de poids suite à une grossesse et un accouchement, si j'ai bien compris.
C'est ça, exactement. Bon, je connaissais déjà un petit peu le milieu, je suivais des comptes particuliers, je me suis dit, au final, bah, pourquoi pas moi? Elles ont l'air tellement épanouies, ça a l'air de se passer tellement bien, ça, oui, quelque part, ça faisait envie. Mmh.
Combien de temps ça vous prenait par jour que mettiez-vous comme photo sur c'est Instagram, hein, que vous utilisiez?
C'est Instagram, surtout.
D'accord.
Oui.
Donc, c'était à quelle fréquence par jour?
J'ai un peu envie de dire que ça me prenait bien trop de temps, difficilement quantifiable, mais oui, enfin, ça commençait au petit-déj avec la photo du petit-déj, ça continuait avec l'exercice du matin, la photo du dîner, du souper, enfin, c'était une présence en fait constante, parce que j'avais toujours cette impression, à la fois oui, de motivation, mais aussi d'épée de Damoclès que j'avais au-dessus de la tête en me disant, bah oui, il ne faut pas que tu craques, il faut que tu sois... parfaite, il faut que tu aies des choses à montrer, donc il faut en faire toujours plus, toujours cuisiner plus sain, toujours faire plus d'exercices, toujours faire plus de sport. Et en fait, une fois que j'ai mis le doigt dans l'engrenage, ça a été terminé, ça a été vraiment...
Justement, est-ce que vous avez senti que ça devenait addictif à un moment ?
Il y a un moment, oui, parce que j'ai commencé à me préoccuper plus des avis que je recevais sur Instagram que des avis de mes proches. Donc, il faut savoir que j'ai perdu vraiment beaucoup de poids. Alors, à ce niveau-là, ça a été magnifique, magique, parfait.
Oui.
Mais à un point tel que j'arrivais plus à m'arrêter. Mm-hmm. Donc, il y avait toujours des gens pour me dire « Mais oui, si tu fais tel exercice, ben voilà, tu seras plus dessiné comme ceci ou comme cela. En mangeant tel truc, tu perdras plus de poids. » Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, j'ai ma famille qui me disait « Mais enfin, tu te rends pas compte, tu passes plus de temps à la salle qu'avec ton mari, qu'avec tes petits. Tu as l'air fatigué, tu traînes des cernes. Il faudrait lever le pied. »
Vous utilisez souvent le mot « parfait ». Vous en rendez compte ?
Oui.
Oui,
oui.
Et c'est quoi alors ? C'est quoi être parfaite finalement ? Avoir un côté parfait ?
Alors parfaite à ce moment-là, c'était vraiment pour moi conforme à l'idée que je me faisais justement de ces grandes fit girls, de cette grande fit mom qui ne semblait avoir aucun défaut, entre guillemets. Mmh. C'était vraiment des gens qui assuraient tout le temps, sur tous les fronts, pas seulement une histoire de physique, mais vraiment quelqu'un qui pouvait assurer sur tous les domaines et tout le temps, qui était au top, qui faisait 36 000 choses, qui ne semblait jamais fatigué et qui ne semblait jamais finalement à court d'idées, au final.
Alors, on va voir que vous utilisez le mot-clé hashtag fitgirl, mais pour continuer justement à expliquer tout ça et à continuer à écouter votre histoire, on se retrouve dans quelques instants.
Europe 1. Vous vous reconnaissez dans le témoignage de Céline, qu'on va retrouver. Vous aussi, vous mettez votre vie en scène sur les réseaux sociaux, vous nous racontez au 3921. Vous composez le 3921 pour venir échanger avec Olivier Delacroix. On peut suivre votre vie sur les réseaux sociaux. Quel impact ont-ils sur votre image ? Nous vous lisons aussi sur les réseaux sociaux via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1.
Et nous sommes toujours avec Céline qui nous appelle de Belgique, je le rappelle, où vous êtes nombreux à nous écouter Europe 1. Céline, vous nous expliquiez donc qu'à la suite de la naissance de vos jumelles, vous étiez rentrée dans une sorte d'addiction sur Instagram, mais en même temps une addiction assez agréable, puisque finalement ce hashtag fitgirl a provoqué un petit mouvement puisque on vous a suivi. Est-ce que finalement ce soutien a provoqué quel effet sur vous d'abord ?
Mais tout d'abord, j'étais assez fière, parce que c'est toujours flatteur quand on sait que vous êtes suivi, qu'on vous félicite, qu'on vous soutient. Donc j'ai vraiment l'impression d'avoir vraiment une communauté derrière moi qui était là aux aguets, qui était là en cas de coup de boule, etc. Donc dans un premier temps, ça a été très très positif. Mmh. Et ça a été bien jusqu'à un certain point où là, par contre, tout a basculé dans le côté plus négatif.
Alors, ça a basculé dans le côté négatif et qu'est-ce vous l'avez senti ce moment-là ? Est-ce que c'est un moment où on sent que on est prisonnier de cette application, où on se sent obligé de faire les choses, ou est-ce que ce sont des remarques de l'entourage ? Comment est-ce que ça a balancé ?
Ben en fait, tout d'abord, basculer il y a plutôt, un moment excuse-moi. Vraiment très 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 précis. Donc j'ai posté une photo de shape, on pouvait voir mon ventre.
Oui.
Et jusque-là, j'avais eu des remarques très très positives. Et mm-hmm. tout d'un coup, ça a été vraiment très très négatif. Donc voilà, suite à ma grossesse, j'avais quand même des vergetures que le sport n'a malheureusement pas pu effacer. Et là, ça a été un déchaînement.
Du style, en fait.
Qu'au final, je n'avais plus aucune crédibilité en tant que fit girl, puisque je n'étais pas une fit girl. Je n'avais pas cette image de fit girl avec le six-pack, la police, etc. Et sur le coup, ça m'a vraiment posé question en me disant, mais au final, qui je suis moi ? Parce que je ne suis pas la fit girl parce que je n'ai pas ce six-pack. Je ne suis pas non plus hashtag...
Le six-pack, ce sont les abdominaux, pour ceux qui ne sont pas spécialistes, ouais.
Donc j'étais pas dans la catégorie non plus des filles qui s'assument parce que j'étais pas assez ronde, j'étais pas assez fine pour être dans la catégorie skinny. Donc au final, je n'appartenais plus à aucune catégorie sur Instagram.
Et au final, lorsqu'on n'appartient plus à aucune catégorie et qu'on revendique quelque chose qui n'est pas clair, on finit par provoquer des commentaires haineux.
Tout à fait. Donc c'est vraiment ça. Mais c'est passé de un ou deux à des dizaines, à des vingtaines tout le temps sur ma messagerie privée ou en commentaire public, alors que jusque-là, moi j'avais justement toujours essayé de véhiculer quelque chose de très positif. Et honnêtement, la première fois que ça vous arrive, vous êtes super démunis. Vous ne
comprenez
pas pourquoi tout d'un coup...
Justement, Céline, quel impact cela a eu sur vous? Parce que j'entends que vous avez été surprise par la force de certains commentaires. En tout cas, voilà, vous parlez de haine, de commentaires haineux. Quel impact ça a eu sur vous?
J'étais très déprimée. À un point tel, je me suis dit au final, à quoi bon? Tant d'efforts, mais les mêmes efforts que j'avais fait la semaine précédente, similaires à ceux que je faisais cette semaine-ci en cours, n'avaient plus aucune valeur pour ces personnes.
Alors justement, on parle d'une étape très importante pour moi, parce que moi j'ai vécu l'avant, c'est-à-dire que je suis d'une génération qui n'a pas connu du tout, en tout cas qui a connu une époque sans les téléphones, sans les applications, sans toute cette folie liée au net, et puis est arrivé tout ça, et puis j'y participe pleinement, on en parlera tout à l'heure, en tant que personnage public, on se sent obligé parfois de faire ça, mais justement à ce moment-là, retour à la réalité, retour aux vrais gens, est-ce que votre entourage a joué un rôle important pour vous, pour décrocher ou pour que vous alliez mieux?
Ah oui, moi je me suis complètement réfugiée dans ma famille, donc pour essayer de me reprendre un peu.
Oui.
Et encore une fois, complètement paradoxalement, je suis retournée sur les réseaux sociaux, sur un tout autre hashtag, donc j'ai plutôt embrassé le mouvement body positive, où là j'ai pu trouver des gens qui se trouvaient aussi sans étiquette et qui créaient un petit peu un mouvement un peu marginal sur Instagram. De gens justement qui ne se retrouvaient plus dans les hashtags imposés par la société et qui proposaient une autre manière de vivre son image, de vivre son corps, et qui donnaient justement la place à ces gens qui n'étaient ni spécialement maigres, ni spécialement musclés, ni spécialement ronds, mais tout simplement eux-mêmes, qui avaient envie de partager leur parcours d'acceptation de soi cette fois-ci, et non plus une image particulière ou imposée.
Mais Céline, je vous entends, et j'entends voilà, l'évolution que vous avez pu vivre, j'entends aussi que vous avez continué sur un autre, sur un autre territoire. Vous en avez quitté un pour en rejoindre un autre. Ça vous amenait quand même à avoir des troubles alimentaires, tout cela. Est-ce que finalement vous ne regrettez pas d'avoir tout simplement mis en scène votre vie aujourd'hui, avant comme ensuite, sur d'autres territoires? Est-ce que c'est un regret aujourd'hui, ou est-ce que vous avez encore le besoin de le faire?
Alors, ce que je regrette d'avoir fait, c'est de l'avoir fait bêtement, sans aucun recul et un peu en mode bisounours. Donc, je pense que pour plein de choses, les réseaux sociaux sont vraiment une très bonne chose, justement dans l'entraide, la recherche de la motivation, mais qu'on n'a pas le recul nécessaire, qu'on n'a pas souvent assez d'estime de soi avant de poster ou avant de s'inscrire dans une espèce de communauté.
Pardonnez-moi, mais on n'a pas assez d'estime de soi, bien évidemment. Et puis, ça n'a rien d'un monde de bisounours, puisque lorsqu'on regarde un petit peu tous les commentaires sur Twitter, finalement, on s'aperçoit que personne n'est vraiment tendre et que les bisounours, on peut les chercher. Merci en tout cas, Céline, pour votre appel et votre témoignage. Nous allons accueillir dans quelques instants Michael Stora. Il est psychanalyste, fondateur de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines et auteur de l'ouvrage Les écrans, ça rend accro.
Europe 1.
Quels effets les réseaux sociaux ont-ils sur notre image? Contribuent-ils, selon vous, à renforcer notre ego? Vous nous appelez au 3921. Je rappelle que vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux, effectivement, sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Sur les réseaux sociaux, c'est bien connu, on étale nos succès, on minimise les échecs. Que disent nos profils sur Facebook, sur Instagram? Que disent-ils de nous? Vous témoignez au 3921, vous êtes avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et sur ces réseaux sociaux, on étale tant de choses. Et nous allons en parler justement maintenant avec Michael Stora, psychanalyste fondateur de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines et auteur de l'ouvrage « Les écrans, ça rend accro ». Bonjour, alors je vous appelle Michael. Pardonnez-moi parce qu'il y a tellement de prononciations, parce que je suis international, comme vous le savez. Je vous appelle comment?
Bah écoutez, moi je vis en France, donc appelez-moi Michael.
C'est la solution la plus simple, Michael. Les réseaux sociaux peuvent être à double tranchant, c'est ce que vous expliquez notamment dans votre ouvrage. Ils peuvent dans un premier temps réparer une image de soi parfois défaillante. Est-ce que vraiment c'est la réalité, et pourquoi avoir ce besoin de réparer cette image?
Alors, on va dire que nous sommes quand même dans une société où les images sont omniprésentes, et ça depuis finalement l'avènement de la télé.
Oui.
Nous avions un rapport quasi fétichiste, voire même une
sacré.
Sorte de respect sacré. Oui, il y avait un rapport quasiment sacré à la télévision. Et puis, d'une certaine manière, nous étions tous renvoyés au fait de ne pas toujours être à l'image de ce que même la société souhaite, et ça, ça a été le relais aussi de la publicité des certaines revues, de magazines féminins. Alors, ce qu'on a observé avec l'avènement des réseaux sociaux, et d'ailleurs, j'ai envie de préciser, d'abord, il y a eu des blogs, vous savez, les fameux Skyblogs. Alors, je sais, je cite une radio concurrente, mais néanmoins, c'était très intéressant parce que le blog, surtout à l'adolescence, était vraiment un espace de construction identitaire,
oui.
Où chacune des facettes pouvait se mettre en scène, et les clics à l'époque, où les commentaires venaient confirmer ou infirmer qu'on avait le droit, pourquoi pas, d'être un peu sombre, ou même d'évoquer quelque chose de la sexualité.
Mmh.
Alors c'est vrai que Facebook, en arrivant, est venu aussi rompre quelque part aussi bien la dimension créative qu'avaient les blogs, mais aussi cette idée d'être un soi, au début en tout cas, authentique. Et là, on a vu étonnamment en France, qui était plutôt pour moi, je trouve, un pays assez voyeur, vous savez, vivons bien, vivions cachés, à quel point nous avions tous besoin d'avoir une sorte d'exhibitionnisme affiché.
C'est vrai que c'était assez révélateur de notre mentalité, de voir l'explosion de cette mise en scène de nos vies à toutes et à tous, selon quoi que soit notre origine, hein, finalement. Ça a été une véritable explosion ici.
Complètement. Et puis, il y avait une dimension très démocratique que je trouvais assez saine, dans l'idée qu'en effet, tout un chacun avait le droit, enfin, de pouvoir exister. Alors, et là, c'est vrai qu'on a commencé à observer une forme de petite dérive, sûrement due aussi peut-être, alors ça c'est une interprétation de ma part, peut-être liée entre autres à la culture propre à Facebook, qui est une culture entre guillemets so amazing, un petit peu, vous savez, so nice, où finalement, là on a vu que ça pouvait, il y avait des formes de dérive qui étaient celles d'un soi très idéalisé.
Oui.
Alors c'est là où l'idée de réparation pouvait exister chez certains. Pourquoi pas ? C'est-à-dire, au fond, on a besoin, évidemment, d'être valorisé, parce que parfois, dans notre vie, et en France, on n'est pas très bon pour valoriser les gens. Mais très rapidement, on s'est rendu compte que pour certains, ça devenait une course au like effrénée, qui venait réparer des fragilités narcissiques, mais avec le risque de tout d'un coup avoir l'audimat qui baisse dramatiquement. Et puis d'autres qui, finalement, peut-être, vous savez, au fond, avaient peut-être peur, étaient un peu inhibés, un peu timides, et qui osaient enfin s'exposer, montrer des facettes de soi. Et là, c'est vrai que ça pouvait avoir une dimension de réparation presque autothérapeutique.
Mais on est quand même, en même temps, Michael, dans ces réseaux sociaux, dans un entretien d'une culture de compétition, de comparaison, notamment, justement, vous l'évoquez avec ces fameux likes. Est-ce que c'est très sain, tout ça ?
Eh ben non, c'est là où finalement, vous avez raison, on a observé cette fameuse dérive un peu inquiétante, c'est-à-dire d'une certaine manière cette idée que ces réseaux sociaux, dont Facebook, Instagram d'ailleurs, sont comme des sortes de reflets de cette société où il faut aller incroyablement bien, il faut être beau, il faut être performant, et c'est vrai que ça devient d'ailleurs de plus en plus tyrannisant, parce que d'une certaine manière, notre société s'est vraiment narcissisée, les réseaux sociaux ont amplifié, je trouve, ce phénomène, et d'ailleurs des études ont montré que lorsqu'on va un peu trop sur les réseaux sociaux et qu'on va soi-même pas forcément très bien, très rapidement, on peut vraiment déprimer.
Cette société s'est narcissisée. À mon avis, elle n'en avait pas vraiment besoin. On ne peut que constater ça. Michael Stora, restez en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes psychanalyste, fondateur de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines et auteur de l'ouvrage « Les écrans, ça rend accro ». Dans quelques instants, vous continuerez à nous apporter vos éclairages.
Europe 1.
La promotion du corps parfait, des selfies en rafale, des photos de profil parfois améliorées, voire retouchées. Nous parlons des réseaux sociaux et de leur impact sur notre image. On vous écoute au 39-21.
Et dans quelques instants, nous accueillerons Cécile avec Michael Sora. Elle avoue avoir cette peur insignifiante sur les réseaux sociaux et on a donc un usage particulier.
On se retrouve sur Europe 1 pour continuer de parler des réseaux sociaux et l'image parfois décalée que nous renvoyons par ce biais, une image parfois bien éloignée de la réalité. Est-ce le cas pour vous ? Vous venez nous dire surtout pourquoi. Olivier Delacroix vous écoute au 39-21. Serge Gainsbourg sur Europe 1, je suis venu te dire que je m'en vais.
Des adieux à jamais. Oui, je suis au regret de te dire que je m'en vais.
Avec les larmes de Jane Birkin, Serge Gainsbourg sur Europe 1, je suis venu te dire que je m'en vais. On est effectivement venu vous dire qu'on s'en va de nos locaux historiques. Europe 1 quitte ce soir la rue François 1er pour rejoindre le 15e arrondissement en bord de Seine. En attendant, dans ce studio où vous écoutiez Coluche, eh bien vous êtes avec Olivier Delacroix. Et on parle des réseaux sociaux. Quelle image nous renvoyons avec notre profil? Vous composez le 39-21.
Et nous sommes toujours en ligne avec Michael Stora. Décidément, j'ai du mal. Hein. Excusez-moi, Michael. Vous êtes psychanalyste, fondateur de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines et auteur de l'ouvrage Les écrans, ça rend accro. Nous devions avoir Cécile avec nous et écoutez, ce sont la magie du direct. Et il se trouve que Cécile ne sera pas avec nous puisque elle est en train d'accoucher.
C'est
voilà.
Donc c'est du pas coup, banal.
C'est un signe. C'est voilà. Un signe. Michael Stora, justement sur ces personnes qui postent leur vie sur Internet, sur ces réseaux, est-ce qu'elles sont plus enclines à recevoir des commentaires méchants finalement?
Alors écoutez, on a découvert en effet que l'homme est un loup pour l'homme, hein. Comme nous le disait Hobbes, c'est qu'évidemment il y a une sorte d'effet de désinhibition. Au fond, on est à l'abri quelque part du regard de ce que nous on appelle en psychanalyse le fameux surmoi, vous savez, cette autorité,
oui.
Et qui fait que finalement ben, on observe à une sorte de déferlement parfois de propos que les gens n'oseraient évidemment pas dire dans la réalité.
Si je vous posais cette question, finalement, c'est que oui. Lorsqu'on poste une photo sur Instagram, on sait qu'on se met dans toujours les meilleures conditions, hein, le plus beau, avec les meilleurs amis, avec et donc du coup, si on étudie bien la mentalité des uns et des autres, on sait qu'on s'expose à des commentaires négatifs.
Oui, alors, tout en sachant que oui, il y a eu des histoires terribles de gens, et d'ailleurs, j'ai envie de dire que paradoxalement, c'est pas que sur Instagram, d'ailleurs, c'est plutôt sur Twitter, où on a vu, où là, il y a une sorte de déferlement de propos, entre autres racistes, terribles,
oui.
Terribles, et je crois qu'on peut pas faire comme si ça n'existait pas. D'ailleurs, ça repose même un autre problème, qui est celui de la modération, mais ça, c'est un autre problème. Mais c'est vrai que, au fond, il y a à nouveau, c'est le meilleur et le pire, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose d'intéressant dans cette idée qu'enfin les gens puissent, parce que toute la journée ils subissent des pressions, avoir un espace où ils puissent se libérer. Mais parfois c'est vrai que cette parole qui se libère est une parole haineuse, et c'est vrai que si je montre une photo d'Instagram, même si elle est bien choisie, je prends toujours le risque de subir la foudre de ce qu'on appelle les haters,
oui.
Dont la vocation est simplement de détruire l'autre, comme ce qu'on retrouve chez les sadiques.
Et vous qui êtes au cœur de cette réflexion, finalement, parce qu'on se pose souvent la question, on a vu pas mal de personnes, de personnages publics dire, après en avoir usé et re-usé, hein, ce qui a provoqué certains sourires chez nous, on arrête notre compte Twitter, on ne veut plus de ça. Est-ce que Twitter, finalement, c'est bon ou pas? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est une bonne chose que tout le monde puisse donner son avis comme ça, et puis librement? Est-ce que cette fameuse démocratie à laquelle vous faisiez référence tout à l'heure, est-ce que c'est bien pour notre société?
Bah écoutez, c'est vraiment une question très complexe, parce que d'une certaine manière, cet idéal de démocratie qui a mené Internet, au fond, avait justement cette idée d'un espace de liberté, enfin.
Un
espace de liberté, d'idéal d'expression, de liberté, ouais. D'expression. Mais là où c'est compliqué, c'est que la liberté n'existe que parce qu'il y a un cadre. D'une certaine manière, ce qu'on perçoit, c'est qu'il n'y a pas de cadre finalement contenant. Et d'une certaine manière, on n'est plus vraiment dans une liberté, mais on est dans quelque chose qui est une sorte de cacophonie, de folie. Alors il y a des espaces où c'est intéressant, d'ailleurs je dirais que même en tant que journaliste, de voir que chaque article peut maintenant être commenté. Alors il y a toujours ceux qui relève des fautes ou je ne sais quoi, mais il y a aussi la possibilité enfin d'avoir un espace de dialogue. Donc il y a des espaces où c'est intéressant, où il y a de la modération d'ailleurs souvent, et puis malheureusement, entre autres sur Twitter, et on a vu que même les responsables de Twitter ne voulaient pas forcément fermer certains comptes qui pourtant étaient totalement haineux et qui, d'une certaine manière, n'allaient pas du côté de la liberté d'expression, mais allaient du côté, d'une certaine manière, de simplement de la destruction de l'autre.
On va pouvoir... Allez-y, pardonnez-moi. Oui.
Non, mais j'ai terminé.
J'allais vous dire qu'on allait pouvoir l'évoquer avec justement quelqu'un qui est social media manager pour des artistes et puis pour des sociétés médias et qui remarque qu'il est difficile finalement d'arbitrer et qui se sent dans le cadre de son travail qui est obligé de modérer en permanence. Il s'appelle Vincent et on l'entendra dans quelques instants et vous pourrez évoquer tout cela ensemble.
Et il y a Elena qui témoigne au 39-21, Elena a 38 ans. Les réseaux sociaux, pour moi, c'est un formidable terrain de jeu. Et ce n'est pas forcément fait pour raconter la vérité. On se crée une autre vie, c'est amusant d'imaginer une autre réalité. Autant enjolivée, surtout qu'aujourd'hui, personne n'est dupe. Alors pourquoi se gêner ? On parle des réseaux sociaux aujourd'hui qui prennent de plus en plus de place dans notre quotidien. Quel impact ont-ils sur notre image ? Vous témoignez au 39-21. Et sur Europe 1, on suit la Coupe Davis de tennis France-Croatie. Christophe Lamarre est à Lille pour Europe 1. Et Christophe, la partie semble s'équilibrer.
Oui, semble, mais ça, c'était pendant la pub, Omeline, parce que entre-temps, malheureusement, Jérémy Chardy vient de perdre sa mise en jeu. Il est désormais mené 6 jeux à 5, service Borna Koric à suivre dans quelques instants, c'est-à-dire dans 1 minute 30. Le temps que Yannick Noah, évidemment, tente de regonfler un petit peu le moral de Jérémy Chardy. Il n'y est pas dans cette partie. Le français, c'est vrai, vous avez raison. Au cours de cette deuxième manche, on a senti que le français se libérait un petit peu, libérait surtout son bras droit. Vous savez que sa principale arme à Jérémy Chardy, outre son service, c'est ce coup droit qui ne parvient pas à ajuster pour gêner Borna Koric, 12e joueur mondial, faut-il le rappeler. Et bien malheureusement, Jérémy Chardy a craqué au plus mauvais moment. Il est désormais mené 6 jeux à 5 dans cette deuxième manche et Borna Koric qui va donc servir dans quelques instants pour tenter de remporter cette deuxième manche. On rappelle qu'il a déjà remporté la première et là, ça serait franchement très compliqué pour les Français. Quoi qu'il en soit, Borna Koric au service pour remporter ce deuxième set.
Eh bien, on vous retrouve sans faute à 16h, Christophe Lamarre, pour faire un nouveau point sur cette Coupe Davis de tennis France-Croatie. Vous retrouvez Olivier Delacroix et nous parlons des réseaux sociaux. Quelle identité nous nous sommes créés sur la toile ? Est-elle différente de la réalité ? Vous nous racontez votre histoire au 39-21.
Et nous accueillons maintenant Vincent. Bonjour Vincent et soyez le bienvenu sur l'antenne d'Europe 1. Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Vincent ?
Alors j'ai 33 ans et je vous appelle de Paris.
De Paris. Vous êtes social media manager. Expliquez-moi en quoi cela consiste exactement.
Alors je travaille pour des sociétés de médias et pour des artistes notamment.
Oui.
Mon métier, ça consiste à définir une stratégie de communication spécialement sur les réseaux sociaux, à la pilotée au bénéfice de la réputation des personnes pour qui je travaille.
D'accord. C'est un nouveau métier, hein, cela. C'est apparu il y a combien de temps environ ?
Alors, c'est vrai, c'est un nouveau métier. Ça existe un peu plus longtemps dans les pays anglo-saxons. Malgré tout, c'est des métiers qui commencent à se structurer fortement et qui se spécialisent de plus en plus.
Allez-y.
Ouais, il existe des social media managers, des community managers, des traffic managers. Donc, ça se spécialise de plus en plus.
Mmh. Les artistes font beaucoup de selfies. Hein. Lorsque je parle des artistes, c'est finalement tous les personnages publics. Ils s'exposent beaucoup sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous constatez dans les réactions que cela suscite ?
Alors, c'est vrai qu'ils s'exposent beaucoup parce qu'il y a un enjeu de proximité qui est fort pour les artistes. Ils ont la possibilité avec les réseaux sociaux d'être en lien direct avec leur communauté.
Oui.
Les réactions sont souvent positives quand on arrive à trouver sa communauté. Après, c'est vrai qu'il existe aussi des contenus qui demandent à être modérés.
Mmh. Justement, il vous arrive souvent de devoir modérer les commentaires ?
Alors, c'est pas la majorité des contenus, mais c'est un travail qui doit être fait. Il y a des messages qui sont haineux gratuitement. C'est quelque chose qui existe, effectivement.
Et qu'est-ce qu'une communauté ? Comment vous définiriez une communauté ?
Une communauté, je la définirais quand elle correspond vraiment à l'univers de l'artiste. C'est-à-dire, une communauté, il n'y a presque plus besoin de la modérer pour moi quand elle est vraiment créée, parce qu'on est dans quelque chose de très positif et qui sont là pour l'artiste.
D'accord. Une communauté, finalement, c'est un groupe de gens qui communique de manière très fluide sur l'activité de la personne concernée. Est-ce que les artistes, les acteurs, les comédiens s'obligent à beaucoup publier pour exister, à votre avis ?
Alors, je dirais pas qu'ils s'obligent. La plupart sont très demandeurs.
Oui.
Parce qu'ils ont cette possibilité avec les réseaux sociaux d'être proches de leur public.
Oui.
Et c'est sans doute le seul moyen d'avoir cette proximité-là.
Moi, je remarque que beaucoup d'artistes aujourd'hui, beaucoup de personnages publics misent énormément sur leur communauté Instagram ou Facebook. Est-ce que c'est un réel paramètre fort aujourd'hui d'avoir une grosse communauté? Est-ce que c'est un outil devenu incontournable lorsqu'on est un personnage public aujourd'hui?
Je pense que c'est incontournable et que c'est, les réseaux sociaux, c'est totalement intégré à nos modes de vie.
Oui.
Et ça permet de faire... les réseaux sociaux, ils offrent une viralité que peu d'autres médias finalement permettent désormais. On peut avoir des millions de vues sur les réseaux sociaux et ça, c'est effectivement un enjeu assez fort pour tous les artistes.
Vous, Vincent, vous mettez en garde contre le fait que les réseaux sociaux puissent être un défouloir pour certains. Qu'entendez-vous par là ?
C'est vrai pour les artistes, mais c'est vrai aussi pour toutes les personnes. Ils peuvent être sur les réseaux sociaux victimes de violences verbales gratuites. Et les réseaux sociaux offrent à certains une forme d'anonymat et donc une forme de défouloir qui est pénalisante. Et il faut en avoir conscience, ça peut être assez violent pour les personnes touchées.
Justement, on pourra continuer à en parler avec Michael Stora et vous-même dans quelques instants pour justement évoquer la puissance de ces réseaux sociaux et justement les dangers que l'on a à s'exposer autant comme ça, d'exposer sa vie privée.
Et il y a Peach qui nous écrit sur Facebook, membre de plusieurs groupes de décoration. Cela m'a poussé à refaire mon chez moi à l'image de mon intérieur et non comme une photo de magazine. Née parmi la génération X, j'ai toujours eu les pieds sur terre, un certain recul par rapport aux images, pas besoin de like pour être heureuse.
Europe 1.
De plus en plus accro à nos smartphones, des photos, des selfies publiées sur les réseaux sociaux. Qui sommes-nous sur la toile ? Olivier Delacroix vous écoute, vous composez le 39-21. Nous continuons de parler des réseaux sociaux et de leurs effets sur le rapport à notre image. Vous allez retrouver Olivier Delacroix le 39-21 pour témoigner sur Europe 1, Matt Simons avec We Can Do Better. Matt Simons sur Europe 1 avec We Can Do Better. Vous retrouvez Olivier Delacroix. Nous parlons des réseaux sociaux, une image parfois bien éloignée de la réalité. Est-ce que c'est le cas pour vous 39-21?
Et nous sommes toujours avec Vincent qui travaille à modérer Social Media Manager, c'est exactement le titre, et Michael Stora qui est psychanalyste fondateur de l'Observatoire des mondes numériques en sens humaine et auteur de l'ouvrage Les écrans, ça rend accro. Vincent, justement, vous baignez dans ces commentaires, vous modérez, vous vous impliquez dans la construction de l'image de ces personnages publics, de ces artistes qui font leurs selfies. D'abord, ils vous demandent la permission avant de faire... Comment ça marche en fait? Vous modérez, mais vous les modérez eux-mêmes dans leurs élans ou finalement c'est un peu compliqué ça aussi?
Non, alors il y a des messages qui, quand ils sont modérés, il n'y a pas de doute possible. Il faut vraiment les modérer, c'est des insultes, c'est des messages blessants.
Oui.
Donc là, il n'y a pas besoin forcément de leur en parler.
Non, mais je vous interrogeais plus sur les artistes dont vous vous occupez.
Oui.
Est-ce qu'ils vous envoient la photo, le selfie d'abord et vous dites oui et vous construisez un petit peu le commentaire autour? Ou est-ce que finalement, ils sont assez indisciplinés?
Alors, chacun a sa façon de faire et son implication sur les réseaux sociaux.
Oui.
Mais je dirais que le plus souvent, ils sont très regardants de ce que je propose et assez impliqués, en fait.
Assez disciplinés, en fait.
Ouais. Hein.
Et alors, vous, en fait, parce que vous avez une vie privée aussi, avoir toutes les dérives et puis tous ces commentaires et puis tout ce que ça implique, le fait d'étaler sa vie sur ces réseaux sociaux. Quel usage en faites-vous compte tenu de ce que vous constatez quotidiennement dans votre travail?
Alors, j'ai un usage qui est très passif. C'est-à-dire que je regarde la vie de mes amis ou je cherche à me divertir par des vidéos, mais moi, je ne poste rien, effectivement.
D'accord. Merci beaucoup, Vincent, en tout cas pour votre témoignage très édifiant. Je me retourne pour finir cette émission vers vous, Michael. En fait, certains emplois obligent les salariés à être sur les réseaux sociaux. Je pense notamment aux journalistes, on a parlé des artistes, mais aussi à ceux qui travaillent dans la communication. Comment se protéger, réussir à faire une différence entre sa vraie vie et celle que l'on doit produire sur les réseaux sociaux ?
Écoutez, c'est un vrai problème et dernièrement, il m'est arrivé de faire une conférence dans une grande société française et un cadre m'a évoqué d'ailleurs à la fin de la conférence en aparté que maintenant, une nouvelle tendance de beaucoup de managers, c'est par exemple de créer des groupes WhatsApp. Et donc, oui. D'un côté, il y a le fait que finalement, WhatsApp, vous l'avez en dehors de votre monde vie professionnelle. Et vous êtes parfois même harcelé. Et en même temps, si vous n'êtes pas invité dans le groupe WhatsApp, c'est-à-dire qu'il y a un souci. Donc, on commence à voir que cette sorte d'hyper-communication, cette hyper-connexion peut avoir des effets parfois collatéraux assez pervers, disons les mots, hein, qui fait que finalement, vous avez une mainmise tout en étant absent. Donc, c'est vrai qu'il y a cette sorte de facilité qui peut avoir. Alors après, on voit bien que pour d'autres influenceurs sur Instagram ou d'autres, ce qui a été un peu évoqué juste avant, eh bien, on commence à percevoir chez certains une sorte de burn-out, hein, parce que c'est épuisant de faire autant de likes toute la journée, et que, on commence à percevoir que certains influenceurs qui quand même commencent à gagner leur vie, il y a un modèle économique, commencent à montrer aussi des signes d'épuisement numérique d'une certaine manière.
On s'imagine en tout cas combien ça peut être compliqué déjà lorsqu'on voit, nous, à l'usage, tous ces likes, tout ça, que ça nous épuise, ces influenceurs peuvent être, eux, noyés dans ces likes et ne plus savoir où ils en sont. Merci beaucoup en tout cas pour vos éclairages, Michael Stora. Merci aussi à Céline, merci à Vincent de nous avoir appelés. C'est la fin de cette émission. Si les réseaux sociaux peuvent être un formidable outil pour prendre des nouvelles de ses proches, partager des instants de vie, on l'a vu, ils peuvent être aussi très très destructeurs et changer profondément le rapport à notre image. Poster une photo n'est pas si anodin que ça, nous l'avons vu, et les réactions peuvent être violentes en retour. S'il n'est pas toujours facile d'en avoir un usage modéré, n'oublions pas que nous sommes des personnes, des personnalités, avant d'être une image sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que nous existons réellement. Pour tous ceux qui nous écoutent et qui l'avaient oublié, je vous le recommunique. Vous pouvez continuer bien évidemment à débattre de ce sujet sur notre page Facebook et sur les réseaux sociaux.
Eh bien oui, n'hésitez pas à réagir, échanger, car on aime vous lire sur les réseaux sociaux via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1.
Europe 1.
Lundi, nous parlerons ensemble de la maladie d'Alzheimer, une maladie qui touche près de 3 millions de personnes et autant qui sont à leur côté. Comment les proches font-ils face? Si un membre de votre entourage a la maladie d'Alzheimer, si vous avez dû placer un proche atteint d'Alzheimer car vous ne pouviez plus vous en occuper, si vous êtes vous-même atteint de cette maladie, appelez-nous au 3921 pour nous parler de votre histoire. Ma chère Ambline, j'ai été ravi de passer cette heure à vos côtés.
Également.
Et puis là où Coluche est passé, où Michel Drucker est passé, où Philippe Gildas est passé à parler dans ses micros. Combien de grandes voix d'Europe 1 sont passées ici, rue François 1er. C'est avec un petit pincement au cœur que nous quittons ces locaux dont moi j'ai eu un grand honneur à partager ces quelques mois, ces deux mois. Je vous laisse maintenant, chers amis, avec Laurence Boccolini. À lundi, passez un bon week-end et on se retrouve, nous, à partir de 15h lundi. Bonne journée et bonne émission, les filles.
Merci, Olivier.
Europe 1.